LSD, la série documentaire, un podcast France Culture.
Tout le monde était uni sur le dance floor de ce club. C'était la réunification de l'Allemagne, la réunification de tous les habitants de la ville sur la piste de danse. Tous défoncés à l'extasie et plein d'amour. Tout le monde se foutait de combien tu gagnais, d'où tu venais et du métier que tu faisais.
Le Trésor et l'Hacienda, deux temples au cœur de la révolution techno. Un documentaire de Nicolas Champeau, réalisé par Gaël Gillon.
Ma maison est pleine de vestiges de l'Hacienda. J'ai des posters de l'Hacienda, mes chaises et ma table de cuisine viennent de l'Hacienda. J'ai des briques du bâtiment extérieur que j'ai achetées à la vente aux enchères, après la démolition du club. J'ai des morceaux d'Hacienda partout dans ma maison. Donc aujourd'hui encore, l'Hacienda occupe une grande place dans ma vie. Je suis allé dans pas mal de clubs et personne n'a jamais construit un club comme l'Hacienda.
Il y a eu le Shrine au Nigeria pour l'Afrobeat, le Whisky à Gogo à Los Angeles pour le rock. La techno a eu Détroit pour berceau, mais elle a pris le large très tôt. Parmi les nombreux lieux qu'elle a fait vibrer, le Trésor de Berlin et l'Hacienda de Manchester sortent du lot. Mark Rieder connaît très bien leur histoire. Il est missionné pour développer en Allemagne le label Factory Records de Manchester, qui signe entre autres Happy Mondays et surtout New Order. Le groupe, avec Factory, cofinance l'Hacienda. Quelques années plus tard à Berlin, Rieder suit de très près le début de l'aventure Trésor.
C'était comme un James Bond. D'abord, tu pousses cette énorme porte en acier chromé. Tu ouvres et tu dis « Waouh, ça va être dément !» Et tu entres, ça pue. L'air est moite et vicié. Il y a des toiles d'araignées qui pendent du plafond. C'est tout rouillé et défoncé. C'était époustouflant. Et puis, bien sûr, il y avait le son. Tu pouvais rester toute la nuit et écouter de la musique fantastique. Le Trésor n'était pas une discothèque où tout était lisse et poli. C'était un endroit défoncé, complètement improvisé, qui correspondait et qui correspond toujours à merveille à notre scène underground défoncée à Berlin. La techno a été conçue à Détroit, mais elle est née à Berlin.
À Manchester, Keith Patterson connaît l'Hacienda sous toutes ses coutures. En 1988, il n'a pas 20 ans, mais c'est déjà un fidèle client. Et puis, il distribue des flyers à l'extérieur du club.
Au début, c'était à l'échelle de Manchester, mais ça a résonné plus loin. Parce que tu arrivais le vendredi à 21h, et Whistler Street était rempli d'autocars avec des gens qui venaient des quatre coins d'Angleterre pour venir à ce club. Parce que tout le monde adorait ce style de musique et voulait participer à cette révolution du clubbing. Et l'Hacienda est devenue la référence. Le club n'a jamais été égalé. Alors quand tu entrais, c'était magique. Tu poussais les portes, tu avais en grosse lettre Factory 51. Et il y avait la photo de Tony Wilson derrière le comptoir. Et à l'entrée, l'acoustique était particulière à l'intérieur. Car il y avait comme un tunnel. Et la musique rebondissait comme un écho. Et là, ça y est, tu es dedans, complètement imprégné de l'ambiance. Et ça transportait les gens dans un état d'euphorie. C'était une cathédrale pour les gens. Et la cabine du DJ était en hauteur. Et c'était rare à l'époque aussi. Nous, on était en bas, on vénérait le DJ. Donc tous ces ingrédients se rencontraient au milieu de cette super tempête.
La cabine du DJ était au-dessus des dance floors. Il y avait un balcon et la cabine était au milieu du balcon, pile au-dessus de la piste de danse et de la scène. La vue était parfaite.
Dave Aslam partageait les platines de l'Hacienda avec l'autre star du mix, Mike Pickering. Aslam a écrit plusieurs ouvrages sur la club culture en Grande-Bretagne.
You could watch people walk in, do the anthropological thing that DJs do, where they
tu pouvais voir les gens arriver et mener l'étude anthropologique typique des DJs, c'est-à-dire regarder les vêtements qu'ils portent, anticiper quel type de musique ils aiment. Et à la fin des années 80, à l'Hacienda, les gens ont commencé à danser sur la scène. Donc le dance floor n'était plus limité à la petite piste. Le club entier était devenu le dance floor. Les gens dansaient sur la scène où jouaient les groupes avant. Et toi, le DJ, tu es au-dessus, comme un aigle qui contemple tous les animaux en bas. Et tu te dis...
That is my
voilà,
audience.
C'est mon public.
But I mean, I remember, you know, the sweat would come off the audience. You know,
je me souviens de la transpiration qui montait de la foule. La condensation s'élevait pour former des nuages. Et bien sûr,
smoke machine.
On avait la machine à fumer. Et les grands soirs.
On a really good night,
si je jouais un super disque.
Play, if I played a big record, I can remember the.
Je pouvais ressentir la puissance physique du public qui venait me frapper directement. Parce que tu as tous ces corps, tous ces gens. Il y a une chimie, tu mets un disque, les gens crient, mais surtout, tu as ce nuage d'énergie qui te frappe à la figure. C'est très très intense.
My name is Mark Reeder.
Mon nom est Mark Reeder.
I grew up in Manchester in the 70s, 60s and 70s.
J'ai grandi à Manchester dans les années 60 et 70. Je suis né en 1958.
And I live in Berlin since.
Et j'habite à Berlin depuis 1978.
And last week I was in Detroit.
Et la semaine dernière, j'étais à Détroit.
What do the three cities have in common? Et ces trois villes ont beaucoup de choses en commun?
Beaucoup.
I mean the fact that
Détroit était le poumon de l'industrie automobile, avec tous ces bâtiments art déco opulents, ces larges avenues. Et la ville est en décrépitude depuis le déclin de l'industrie automobile.
Manchester, in a similar way, passed huge Victorian era industrial revolution buildings.
Manchester aussi regorge de bâtiments victoriens qui remontent à la révolution industrielle et à l'essor du textile dans la ville. Il y avait aussi des docks. Et tout s'est écroulé dans les années 70. Tout le monde a perdu son emploi. Donc c'est une trajectoire similaire. Et enfin, tu as la ville de Berlin, qui avait été la capitale de l'Allemagne et qui avait été complètement bombardée pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et cet endroit, autrefois merveilleux, ne s'est jamais vraiment relevé de la guerre. Donc toutes ces villes luttaient pour leur survie. Et dans cette lutte, la musique est devenue une alliée. Et moi, je venais de Manchester. Je suis allé à Berlin dans les années 70 pour acheter des disques. Et je ne suis jamais reparti.
I think you're in a good position to tell us a little bit about the underground scene. Et vous êtes bien placé pour nous décrire la scène underground à Berlin-Est. Est-ce qu'elle existait et si oui, à quoi est-ce qu'elle ressemblait?
Well, there wasn't so much like an underground club scene.
Il n'y avait pas de club underground à Berlin-Est.
It was very, very difficult.
C'était très difficile d'être dans l'underground dans l'ex-RDA.
In the GDR, it was almost impossible to be underground. You never knew who was in the.
Tu ne savais jamais qui était dans la Stasi. Qui pouvait t'espionner ou te dénoncer. Donc ils écoutaient la radio de Berlin-Ouest, et en particulier l'émission de John Peel sur la BBC, qui était reprise par la radio des forces armées britanniques. Donc ils étaient conscients qu'il y avait une scène musicale alternative à l'Ouest, et ils aimaient cette musique, mais ils ne pouvaient pas se l'acheter. Ils pouvaient seulement l'écouter. Moi, j'avais toute une collection de disques à la maison que j'avais commencé à réunir à Manchester. Donc, j'avais tous ces disques et je continuais à en acheter plein d'autres. Et je les ai enregistrés sur des cassettes pour mes amis de l'Est, car je savais qu'ils écoutaient seulement ce qu'ils entendaient à la radio, mais ils ne pouvaient pas écouter la musique que moi je découvrais dans les clubs. Et je les acheminais clandestinement à Berlin-Est. Il fallait préparer les cassettes. Car une cassette, quand tu la secoues, ça fait du bruit. Parce que l'intérieur bouge et percute la paroi. Donc j'empêchais le mécanisme de bouger en mettant du scotch. Non, je mettais du scotch sur les roues. Et ensuite, je me scotchais la cassette sur le corps. Et puis, on faisait des fêtes parfois chez des gens. J'amenais des gâteaux au hashish, on recouvrait l'écran de télé avec du papier journal, en faisant des petits trous. Et l'image de la télé clignotait et la lumière se diffusait à travers les trous du journal avec un petit effet stroboscopique.
Some German TV program happening on the background, but like through the strips of light in the paper, it would make kind of like a stroboscope kind of atmosphere in this.
On n'était que 10 ou 12. Mais je voulais qu'ils aient au moins une idée de ce qu'est une fête dans un club.
À Manchester, c'est tout le contraire. Il y a trop de clubs. Et la Hacienda, inaugurée en 82, est une belle cathédrale, mais sa congrégation est petite. La reconversion du club, un ancien entrepôt de bateaux, a coûté bien plus cher que prévu. Quand ils y jouent, New Order et les Smiths font le plein, mais le reste du temps, le lieu est vide et il fait froid. La house, la techno et la DJ culture arrivent des États-Unis comme une promesse. Ce sera une révolution.
Soudainement, l'osmose a surgi. La musique, la danse, les drogues, le lieu et la ville. Les faits m'ont donné raison. Manchester était bien la Renaissance florentine. Le DJ Mike Pickering avait raison. Un club n'a pas besoin de groupe. Sean Ryder avait raison. New Order avait raison. Tout le monde s'est retrouvé à l'Hacienda, notre cathédrale.
La révolution a inspiré au réalisateur Michael Winterbottom le biopic 24 Hour Party People, présenté au Festival de Cannes. Pour les scénaristes, le choix du narrateur en fil rouge ne fait pas un pli, avec la figure de Tony Wilson, joué par Steve Coogan. Présentateur de télé le jour, patron du label Factory Records et de club la nuit, Wilson, le fantasque, s'est inspiré du manifeste situationniste qui appelait à reconstruire l'Hacienda.
I knew around Manchester there were lots of small clubs. There was a club called the Play.
Je savais qu'il y avait plein de clubs autour de Manchester. Il y avait un club, le Playpane, où de sang gosses se retrouvaient tous les mardis pour écouter de la musique psychédélique. Un autre club, The Gallery, recevait tous les vendredis des gosses venus écouter du hip-hop. Le club The Reno, c'était pareil. 200 gamins qui écoutaient du funk et de la soul. Et moi, j'étais inquiet. Comment allions-nous faire pour attirer 1000 personnes à l'Hacienda? Je me suis dit que la solution, c'était de jouer la meilleure musique, selon mes goûts à moi, de tous ces différents styles joués dans ces clubs ciblés. Mais pour moi, c'était des clubs ghetto. Des clubs qui disent, nous jouons cette musique et rien d'autre. Et je n'aimais pas cette attitude. Je préférais casser les ghettos et briser des barrières. Donc je suis devenu stratège et je me suis dit qu'il fallait jouer la musique qui rassemble les gens. Donc tu auras des fans de musique psyché à côté des fans de hip-hop, de funk et de punk. C'est comme ça que tu te construis un public. Et bien sûr, ils ont tous fini par danser sur la house et la techno. Parce que tu dois prendre un risque. Tu dois te lancer un défi et les défier eux aussi. Tu ne peux pas rester statique. Tu dois découvrir les nouveautés, surfer sur l'air du temps, C'est très important si tu veux être le top DJ d'un club top. Et nous sommes parvenus à réunir ces deux éléments, et le style de musique qui, selon nous, correspondait au nouvel esprit, c'était la house et la techno. Même si au début nous avons commencé par jouer des choses éclectiques, nous avons tous fini par graviter autour de ce son particulier.
Là, sur le pont de Bornholmer, 28 ans après, les deux côtés se retrouvent. À pied, en vélo, en voiture Trabant, ceux de l'Est entrent à l'Ouest. Leur liberté est totale, on offre du champagne et du coca.
When the wall came down, they were... Mark Reeder, quand le mur de Berlin est tombé, les Berlinois de l'Est devaient avoir très envie d'aller à de vraies fêtes house et techno, j'imagine.
Le truc, c'est qu'avant la chute, les gamins de l'Est n'avaient pas accès à cette musique, à part mon cercle d'amis. Les autres écoutaient le show de Monica Dittel à la radio, et ils s'imaginaient que la scène techno à Berlin-Ouest était énorme. Ils pensaient qu'on avait des fêtes techno géantes partout. Donc quand le mur est tombé, ils sont venus à l'Ouest, et ils ont réalisé qu'il n'y avait que deux clubs.
Both the size, you know, like small places.
Deux petits clubs.
Suddenly the wall comes down, and all these kids from East Berlin suddenly come pouring over.
Donc soudainement le mur tombe et tu as tous ces gamins qui débarquent et ils trouvent ces deux clubs minuscules.
So it was like packed. The UFO club was packed.
Et donc ces clubs étaient pleins à craquer. Tu pouvais plus bouger.
And there weren't enough parties. There weren't enough parties to go to. So these East.
Alors les gamins de l'Est ont dit bon, il va falloir faire quelque chose.
After the war, East Germany didn't have the means to build up everything again. You know, I mean.
Après la Deuxième Guerre mondiale, l'Allemagne de l'Est n'avait pas les moyens pour tout reconstruire. Et Berlin était en ruine. Et nous, à l'Est, nous n'étions pas gâtés avec un paquet d'argent et un plan Marshall. Donc de nombreux bâtiments sont restés en l'état. Et le gouvernement s'est concentré à la reconstruction de ce qui était urgent et indispensable. Donc il restait plein de ruines.
À peine le mur tombé, Matthias Stiller organise des rêves parties sauvages. Il rêve d'un lieu magique, dans la ville devenue deux fois plus grande du jour au lendemain. Son panache impressionne ses nouveaux copains de l'Ouest, Dimitri Eggman et Hakim Kohlenberger, patron du label Interfish et du club UFO. Un jour, Matthias est intrigué par un bâtiment abandonné sur la Leipziger Straße. C'est l'ancien grand magasin Wertheim. Il passe plusieurs semaines à parlementer avec les autorités, mais finit par décrocher le jeu de clés. Au sous-sol, il découvre une salle des coffres, ou trésor en allemand.
And the door was open.
La porte était ouverte, vers le cellier. C'était très sombre. Il n'y avait pas d'électricité. La lumière marchait en haut, mais il n'y avait rien en bas. C'était sombre et humide. Mais il y avait une magnifique cage d'escalier. Alors nous sommes descendus avec nos briquets. Nous avons pris à droite, puis à gauche, et à gauche encore. Et après 4 mètres, nous sommes arrivés à une énorme porte de coffre-fort tout trouillée. Et on s'est dit, ok. Nous sommes entrés l'un après l'autre dans la pièce. Et nous étions très choqués. Tout était parfait dans cette pièce. Sa surface, sa structure, tout était parfait.
La taille était parfaite. La structure était parfaite. Quelque chose qui avait été over.
C'était un lieu qui avait été abandonné pendant 40 ans.
Et donc nous étions.
Nous avons visité tout le site sans dire un mot, jusqu'à ce que nos briquets commencent à faiblir. Donc nous sommes remontés et nous sommes rentrés à Berlin-Ouest pour aller dans un bar. Et c'est seulement arrivé au bar que nous avons commencé à parler. Et nous n'avons pas dit, alors c'est intéressant, qu'est-ce que tu en penses? Non, nous avons dit, ok, qui fait quoi? Donc nous sommes entrés dans ce lieu et nous avons découvert tout cet intérieur. Et c'était incroyable, je me suis dit, waouh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et à ce moment-là, j'ai pensé, quelque chose de grand va se produire ici. Je me le suis dit dès le début, ce sera ici.
Dimitri Hegeman, cofondateur du Trésor.
Ici, c'est le Trésor. Nous avons plusieurs sites dans le bâtiment. Mais là, nous entrons dans le cœur des choses.
There's concrete and graffiti. You see? Here you see the old lockups from the Jewish bank house.
Vous voyez, nous avons gardé les vieux casiers de la banque juive. C'était la salle des coffres d'une banque juive après la Deuxième Guerre mondiale. Ils l'ont abandonnée et oubliée, car elle était très proche du mur. Et il y avait deux murs, et entre les deux, un no man's land. Et ce bâtiment était très proche du mur de l'Est, donc les gens de l'Est n'avaient pas accès à ce lieu. Et ils l'ont oublié. Il était en sommeil profond.
We discovered it by chance.
Nous l'avons découvert par hasard.
Wake up, you know.
Et nous l'avons réveillé.
New content, you know.
Avec un nouvel usage.
This is a dance floor, you know. You can follow me.
C'est par là, suivez-moi.
They're applauding. Vous voyez, ils applaudissent le DJ. Pas la musique, pas les musiciens, pas le créateur. Mais le médium. Nous y sommes. La naissance de la culture rave. La béatification du beat. L'âge de la danse. Nous sommes arrivés au moment où même l'homme blanc se met à danser. Bienvenue à Manchester.
Ecstasy was coming into the UK as well. There was queues at the hacienda outside, which has never been before.
L'ecstasy avait commencé à débarquer en Grande-Bretagne. Il y avait des files d'attente comme on n'avait jamais vu à l'hacienda.
Ange Matthews, ancienne gérante de l'hacienda.
So before the evening, 7 o'clock at night, there'd be a queue right round the
block. Dès 19h, la queue faisait le tour du pâté de maison. La mode avait changé. Les gens portaient des vêtements amples et agitaient les bras vers le ciel. Le club entier bougeait. On voyait bien qu'il était en train de se passer quelque chose. Les journalistes nous pourchassaient. Tout le monde descendait à Manchester. C'était chouette et excitant.
Dave Aslam, DJ.
De nombreux morceaux de cette musique ont un aspect minimaliste. Et c'est toujours quelque chose qui m'a fasciné. Kraftwerk, Joy Division, Miles Davis. J'aime beaucoup la musique qui laisse de l'espace. Et dans la house et la techno, vous avez le rythme, vous avez la mélodie, mais souvent, c'est tout.
You listen to a band and there's lots of clatter and lots of chatter and there's
Or, si vous écoutez un groupe, c'est bavard, il y a le fracas et tout un tas de dimensions, mais la house et la techno laissent un peu d'espace ouvert car il y a cet aspect minimaliste. Et donc, si vous êtes dans un environnement où l'acoustique est pauvre, et cet espace et ce son des hangars pénètrent et ressortent, car tout ce qu'il y a en fait, c'est une structure simple et un son simple. Donc, ça ne pose pas un défi à une structure où l'acoustique est pauvre. Vous avez juste le battement de la grosse caisse. Et les gens qui sont allés à l'hacienda se souviennent d'avoir été dans la file d'attente, dehors, et ils ressentaient l'impact sur les murs. Ils avaient l'impression que les murs bougeaient avec la basse. Et une fois à l'intérieur, vous entendez peut-être la mélodie du piano, vous savez, et il y a de très bons disques de cette époque qui n'ont rien d'autre qu'un tout petit peu de voix, un sample de voix ou un bleep, une ligne de basse acide, c'est minimal. Et ça marche dans un site où l'acoustique est mauvaise, c'est aussi pour ça qu'il nous semblait pertinent d'y jouer cette musique.
Dimitri Hegeman, cofondateur du Trésor.
Il faut qu'elle puisse continuer cette philosophie qui consiste à utiliser des lieux pour des idées créatives. Les DJ sont là, derrière les barreaux. Les gens qui ne sont pas très grands peuvent danser ici. J'aime bien les petits clubs où il n'y a pas 1000 personnes. Après la chute du mur à Berlin-Ouest, quand le club a commencé, quand ce mouvement a vu le jour avec cette nouvelle musique née à Détroit, les gens attendaient quelque chose de nouveau. Après la réunion des gens de l'Est et de l'Ouest, et ils se demandaient, maintenant quoi ? Et nous avons eu de la chance quand ce son du Michigan est arrivé. Nous l'avons aimé. C'était une musique sans paroles, sans mélodie, mais juste les beats. Et cette musique a rassemblé beaucoup de gens qui venaient de partout, d'Europe de l'Est. Parce qu'il n'y avait pas de paroles mièvres comme « Bébé, je t'aime », pas de mélodie, mais juste des beats qui connectaient les gens. Et c'est devenu la bande originale de la réunification. Et cette musique est encore là aujourd'hui. On avait eu la disco high energy, on avait eu le rap, on avait eu Nirvana, le rock, on avait eu l'acid jazz. Mais nous attendions la nouvelle nouveauté. Et puis le son de Michigan est arrivé. J'avais de la chance car, grâce à mon petit label, j'avais déjà des contacts avec des gens de Détroit. J'étais en lien avec un groupe qui s'appelait Final Cut. Et Jeff Mills était l'un des membres. Et je les ai appelés et j'ai dit, les gars, est-ce que vous pouvez venir ? C'était entre 1988 et 1990, quand nous avons commencé le Trésor. Jeff Mills avait un nouveau projet, Underground Resistance. Et je leur ai dit, venez, les enfants de l'Est vous attendent. Et ils ont joué Underground Resistance au Trésor. Et les gens ont vraiment adoré. Et nous sommes restés amis toutes ces décennies. C'était super, c'était exactement le type de nouveauté que les gens attendaient. C'était incroyable. Le son était de la techno brute. C'était tellement fort que ton jean tremblait. Tu pensais, mais je vole. Et Jeff Mills, le sorcier, a joué. Il est venu me voir après son show et il m'a dit, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Les gens n'ont pas dansé. Personne n'a dansé parce que tout le monde te regardait. Les gens n'avaient jamais vu quelqu'un mixer comme ça. Et il passait un disque juste 20 secondes, puis l'enlevait et le jetait par-dessus son épaule tout en passant un autre. Les gens n'avaient jamais vu ça. Les gens étaient tellement surpris, c'était nouveau. Alors, nous ne savions pas si ce style allait durer. Ça allait peut-être devenir comme le punk, un truc qui arrive et qui disparaît.
Alan Oldham, DJ et producteur techno de Détroit, a fait partie du collectif Underground Resistance. Il réside à Berlin.
Historically, it was an inflection point.
Le Trésor a incarné l'esprit de liberté des Allemands après la chute du mur. Berlin était à un tournant de son histoire. Il y avait la chute du mur et l'arrivée de la techno de Détroit à Berlin. Le club Trésor a créé sa réputation en programmant des artistes de Détroit. Le Trésor s'est distingué des autres clubs car c'était vraiment le foyer d'accueil pour les DJ de Détroit à Berlin. Et pour moi, jouer au Trésor, c'était un privilège. J'ai vécu ça comme une consécration.
I thought I had arrived. I thought, okay, wow, I'm a real producer DJ now.
Quand ils m'ont demandé d'y jouer, je me suis dit, ça y est, je suis un vrai DJ. Et c'était sauvage. Je n'avais jamais vu ça aux États-Unis. La piste de danse grouillait de monde.
Le club itself could not have existed in America because it was.
En fait, ce club n'aurait pas pu exister aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, il y a plein de contraintes sécuritaires liées aux assurances. Pour les Américains, la jauge aurait été trop grande, d'un point de vue technique. Ils auraient dit qu'il n'y avait pas assez de sorties de secours au trésor, par exemple, des choses comme ça. Les États-Unis n'auraient jamais permis un truc pareil.
Ce sont pourtant des clubs américains qui sont à l'origine du concept de l'Hacienda à Manchester. Après le suicide de leur chanteur, Ian Curtis, les membres de Joy Division se reforment et créent New Order. Le groupe décide d'honorer une tournée prévue aux États-Unis. Tony Wilson, le patron du label Factory, les accompagne à New York. Et la nuit, avec le bassiste Peter Hook et les autres, ils vont dans les clubs. Peter Hook.
Ce qui nous a marqué, c'est ce que nous avons ressenti dans les clubs aux États-Unis. L'expérience était très différente de celle des clubs en Angleterre. Les clubs anglais étaient vieux jeux, alors qu'aux États-Unis, ils étaient plutôt progressistes. Il y avait un mélange de genres, différents styles musicaux. L'atmosphère était très détendue. Et il y avait surtout le fait qu'à New York, il nous a permis d'entrer habillés en punk. Là, c'était le bonheur. On s'est dit, mais il nous faut absolument un club comme ça en Angleterre. Et puis n'oubliez pas que Tony Wilson était avec nous dans ces clubs américains. Et le concept social du club a énormément séduit Tony. Son idée était de créer un lieu de rencontre pour des gens comme nous, parce qu'il n'y avait rien de convenable pour des gens comme nous à Manchester.
Anywhere decent, shall we say, in Manchester. There were some very underground clubs that were very seedy, that catered for punks.
Il y avait des clubs très underground pour les punks et les goths, qui étaient miteux, mais il y en avait peu, ils étaient minuscules, et Tony trouvait que l'on méritait mieux.
And what about the idea of not only a place for music? Et l'ambition de Tony Wilson allait au-delà de la musique. Il avait la vision d'un lieu pour toutes les différentes formes d'art. C'était un situationniste.
Yeah, I mean, Tony was much better educated than the rest of us, shall we say?
Tony était plus éduqué que nous autres. Nous faisions tous partie de la classe ouvrière. Aucun de nous n'est allé à l'université. Donc Tony était en avance sur nous et il a eu la grande idée. Son approche du club était la même que son approche de son label, Factory. S'il entendait quelque chose, plus c'était farfelu, plus c'était bizarre, plus ça lui plaisait. Donc il voulait que le club accueille toute forme d'art, toute forme de musique. Tous ceux qui voulaient essayer un truc étaient les bienvenus.
He was just wide open to anybody giving it a shot.
Factory numéro 51, l'Hacienda. Les bâtiments créent des synergies. Les bâtiments modifient la façon de penser. C'est ce qui s'est passé lors de la Renaissance florentine.
Oui, mais là, on n'est pas à la Renaissance florentine, on est à l'âge des ténèbres à Manchester. C'est un putain d'abattoir, ce lieu.
Tony Wilson a joué un rôle central pour l'Hacienda et Factory Records. Pour lui, la musique était le conduit pour transformer la culture.
Dave Aslam.
Il est devenu adolescent dans les années 60 et il adorait le lien entre la musique et la révolution avec la génération Woodstock, mais aussi il adorait Malcolm McLaren et ce que le manager des Sex Pistols avait accompli avec le punk rock. Parce qu'il a changé les attitudes, il a changé la culture. Et Tony Wilson a toujours rêvé d'être au cœur d'un mouvement qui produirait un effet similaire aux transformations de la génération Woodstock et de la génération punk. Il s'intéressait surtout à l'impact de la musique sur le public et par ricochet, comment l'hacienda aurait un impact sur la vie des gens. Quand il signait les gens sur son label Factory, il ne leur disait jamais comment se comporter, ce qu'ils devaient jouer, comment jouer et quoi dire en interview. Avec les DJ, c'était la même chose. Ils nous disaient, les disques, c'est ton boulot. C'est lui qui avait une vision globale. Il a vu que Manchester devenait Manchester. C'est lui qui a réalisé que la musique devenait une culture, la club culture, la culture acid house. C'est lui qui collait le mot culture aux choses.
The first piece of advertising for the hacienda, there was a little line at the bottom of the advert, and it said.
Et sur le premier tract publicitaire pour l'hacienda, il y avait un petit encart où il était écrit pour restaurer un sentiment de lieu. Donc, il ouvrait une discothèque pour restaurer à Manchester quelque chose qui manquait à ses yeux. Un esprit communautaire, une entreprise artistique. Donc, il avait cette ambition que nous n'avions pas pour ce vieux hangar en périphérie de Manchester.
Un old warehouse on the outskirts of town.
Cette attitude, il l'a forgée à la fin des années 60. Elle était en partie hippie, mais aussi situationniste. Il avait étudié à Cambridge à la fin des années 60, qui était un bastion de situationnistes, et il en parlait tout le temps.
Which was a hotbed of situationism, and he was forever talking about it.
Wilson dirigeait l'hacienda avec le manager de New Order, Rob Gretton. Ils se disputaient souvent et en arrivaient même parfois aux mains. Wilson était quelqu'un d'ouvert, mais pour rester ami, il valait mieux être d'accord avec lui. À Berlin, le patron du Trésor, Dimitri Eggman, s'est séparé en douceur de ses associés. Matthias Tiller a tourné la page. Le plus important est ce qu'ils ont en partage.
We both, Dimitri and me, we are.
Dimitri et moi, nous adorons les lieux. Nous raffolons des espaces que les gens n'ont jamais vus avant. Au début, avec le trésor, les gens voulaient surtout découvrir le lieu. La techno était au second plan. Mais ça a vite changé. Après, les gens venaient surtout pour la musique.
Dimitri
donne souvent l'impression de roupiller. Mais je crois qu'en fait, c'est une technique de karaté. On dirait un moine qui somnole. Mais son cerveau marche très vite. Et il a toujours plusieurs wagons d'avance. Il cherche toujours à impliquer d'autres gens qui ont plus d'énergie que lui. Car je pense qu'il n'a pas beaucoup d'énergie, lui. Et c'est une technique qui lui a plutôt réussi.
L'esprit de la techno, c'est une philosophie très particulière. C'est quelque chose de complètement nouveau. C'est le début d'un nouveau mouvement, très social, entre les gens des deux côtés, de l'Est et de l'Ouest, entre les Blancs et les Noirs. Ils se sont retrouvés à Berlin pour fonder un nouveau mouvement autour du concept de paix. La paix compte beaucoup pour moi. Mais il y avait aussi la liberté, la tolérance, l'ouverture envers les autres, des valeurs qui convenaient bien à Berlin. Et tout cela, c'est lié à la techno. Vivre ta vie à ta façon. J'aimais aussi l'aspect communautaire et le partage. Le partage d'idées, d'informations. Au-delà des frontières, au-delà des cultures. C'est ce que permet la techno et c'est ce qui a permis à la techno de devenir un mouvement très important. Moi, je suis quelqu'un de curieux. J'ai grandi avec la musique psychédélique et avec Jimi Hendrix. J'aime encore ça, d'ailleurs. Et la musique électronique et la culture club me font beaucoup penser au mouvement hippie. Les valeurs sont proches, d'ailleurs.
Souvent, les gens associent l'hédonisme, la vie nocturne et l'alcool à l'idée de fuite. Mais on parle aussi de gens qui veulent se sentir de nouveau comme des êtres humains, ressentir plus d'humanité qu'à l'usine. Et je crois que c'est ce qui explique pourquoi la musique de Détroit et de Chicago a reçu un tel écho à Manchester. Parce qu'elle était produite par des gens qui savaient à quoi ressemblait la vie dans une usine Ford. Et pire, dans les années 80, les gens n'avaient même pas de travail. Les usines avaient fermé, donc les gens n'avaient pas d'argent et peu d'attente.
And I think so you've got this tradition and you've got this hunger for going out.
Donc il y avait cette tradition et cette soif de sortie nocturne. Et quand nous sommes arrivés, cette tradition remontait déjà à des siècles en arrière. Frederick Engels, le fameux philosophe, théoricien et politicien, il a vécu à Manchester dans les années 1840. Et il a décrit dans ses livres comment il a dû enjamber des corps de gens complètement ivres, allongés au milieu de la rue, le samedi après-midi. Et il a tout de suite attribué ces comportements à la vie dans les villes industrielles, où l'on travaille pour le patron, dans l'usine, au hangar, ou à la filature. Vos revenus sont faibles. Votre espérance de vie est faible. Et à la fin de la semaine, vous voulez à tout prix vous échapper. Mais aussi vous sentir vous-même. Et vous avez envie de sortir la nuit, le week-end. Ce que nous appelons vivre pour le week-end. C'est un phénomène énorme dans des villes comme Manchester. Donc les gens étaient à la recherche d'une expérience. Et dans ce contexte, il est inutile de proposer quelque chose qui est prévisible, ennuyeux et même sans danger. Parce que tout ça, c'est la vie normale. Alors il faut proposer quelque chose qui est anormal et extraordinaire.
Alex Patterson est cofondateur de The Orb. Il vit au sud de Brixton, à Londres. Patterson est l'inventeur de l'ambient house music.
Le trésor était un monstre, bâti pour la house music. L'hacienda a été créée pour ravitailler les clients des barons de la drogue, avant la house même. Killing Joe, qui a joué au début des années 80, c'est mon premier souvenir de l'hacienda. Au trésor, j'avais joué dans la salle ambiante, qui était superbe. La pièce était décorée pour ressembler à un vagin. Et je jouais dans une pièce remplie d'eau. Et il y avait une jeune femme, une contorsionniste, qui dansait sur une table de médecin. C'était très bizarre. Et le reste était encore plus étrange. Et ça a duré des heures et des heures, jusqu'à 10 heures du matin. Vous y êtes déjà allé ?
Les idées partaient dans tous les sens.
Ange Matthews.
Comme l'idée de la piscine en plein milieu de la piste de danse. Quand la piscine a explosé, c'était en plein milieu de la soirée et le club était plein à craquer. Elle a explosé d'un coup. C'était un vrai raz-de-marée vers le bar. Et moi, j'étais juste à côté.
Et quels étaient les autres défis auxquels vous étiez confrontée en tant que gérante de l'Hacienda durant ces années un peu folles ?
Il y avait des gangs à Manchester et ça, c'est un défi que je ne pouvais pas affronter seule. Nos videurs essayaient de limiter la casse, mais la police ne nous aidait pas beaucoup. Elle nous demandait de fouiller les gens à l'entrée, et du coup on se retrouvait avec de grosses quantités de drogue à la fin du week-end. Le lundi, on ne savait pas quoi en faire. Et la police nous demandait de leur apporter la drogue. Mais alors nous, si on se faisait arrêter par la police en chemin, avec des sacs entiers de drogue sur nous, on a perdu tellement de temps avec ces trucs qui ne rimaient à rien. Ah aussi, ils ont décidé que c'était notre rôle de confisquer les flingues des gens. Comme si j'allais m'occuper d'un flingue. C'est ridicule. Moi, dès que je vois un flingue, je m'enfuis tout de suite. Après, ils nous ont demandé d'installer des détecteurs de métaux, comme dans les aéroports. Ça nous a coûté une fortune, ce genre de truc. Il n'a marché qu'une nuit et on a fait semblant qu'il marchait tous les autres soirs.
Il n'y avait qu'un seul problème à l'Hacienda. Le club n'a jamais fait d'argent. Il y avait une foule énorme et l'ambiance était extra. Tout ça grâce à l'ecstasy, pas à l'alcool. Et nous ne vendions pas d'ecstasy au comptoir, même si l'idée nous a traversé l'esprit. Nous financions le bâtiment, le staff, les DJ, la sono. Mais la quasi-totalité de l'argent allait dans les poches des dealers de drogue. Et vous savez quoi ? Ils ne nous rendaient pas l'argent. Ils le dépensaient en vêtements, en voitures, en restaurants, en maisons, en filles et en flingues. En flingues surtout. Les vendeurs de drogue sont des hommes d'affaires ordinaires. Ils aiment augmenter leur part de marché.
Différents gangs rivaux voulaient contrôler la vente de drogue dans le club. Donc il y avait de la violence parce que les gangs infiltraient le club et ils s'affrontaient dans le club. Pour chasser les autres gangs. Et ils le faisaient en recourant à la force. Et à la fin, ils en sont venus aux armes à feu. Je me souviens d'une fois, la piste était pleine, tout allait bien. Et j'ai quitté la piste des yeux un instant, et quand je l'ai regardée à nouveau, elle était vide. Il y avait des videurs qui pourchassaient un gangster armé à travers le club. Tous les gens qui étaient sur la piste s'étaient repliés près des murs. Et à la fin de janvier 1991, le club a été fermé pour 3 mois pour essayer de trouver une solution.
Avec le décès à l'Hacienda de l'adolescente Claire Layton, qui avait consommé de l'ecstasy, le club et ses excès deviennent la cible de la police. Et l'Hacienda est toujours dans le rouge. Après le tube Blue Monday, le groupe New Order enchaîne les succès pour le label Factory. Mais d'année en année, il doit renflouer les caisses. Le bassiste Peter Hook a publié les comptes dans son livre « L'Hacienda, la meilleure façon de couler un club ».
What we did was how not to run a club. If you needed a lesson in how to not make
ce qu'on a réussi, c'est montrer comment ne pas gérer un club. Pour tous ceux qui avaient besoin de conseils sur toutes les choses à ne pas faire, nous avons donné un super exemple. Mais bon, c'est un peu facile pour moi de râler, assis sur mon fauteuil, après 47 ans d'une carrière musicale très réussie. Je vais très bien, je suis heureux, je suis à l'abri. Je suis fier de ce que nous avons accompli. Je déteste les autres enfoirés de New Order, mais ils me détestent sans doute autant que moi. Mais c'est la vie, et on est coincés ensemble jusqu'à la mort, et sans doute même après la mort. Mais la vérité, c'est que l'approche de Tony pour le club était la même que pour le label. C'était l'anarchie. Mais malheureusement, il traitait avec des hommes d'affaires. Et les hommes d'affaires n'aiment pas trop l'anarchie. Et ils ont vu qu'ils avaient en face d'eux une bande d'imbéciles qu'ils allaient pouvoir rouler. Et sans le succès continu de New Order, l'Hacienda n'aurait jamais vécu aussi longtemps.
And really, without New Order's ongoing success, the Hacienda could not have carried. I mean, when I say that.
Quand je dis que New Order a financé les fêtes d'une ville entière pendant 17 ans, je dis la vérité. Mais nous voilà en 2023, et je peux vous dire avec la plus grande certitude que personne n'arrivera à reproduire quelque chose comme l'Hacienda.
Nobody, I can tell you categorically for a fact, will ever do anything like the Hacienda.
On ne verra jamais l'inspiration qui venait de l'Hacienda pour la musique, le clubbing, la mode, ça n'arrivera plus jamais.
For clubbing, for culture, for fashion, in the world, it will never, ever happen again.
C'était le genre de club où vous rencontrez des gens avec qui vous restez en contact pour faire des choses. Et j'adore cette idée. Ce que nous faisions allait sortir du club et se transformer en autre chose. Par exemple, les Chemical Brothers. Ils sont arrivés à l'université de Manchester à la fin des années 80. Ils venaient à ma soirée le jeudi soir et ils ont dit que ce qu'ils adoraient dans mon set, c'est que je pouvais jouer les Beastie Boys, My Bloody Valentine et la techno de Détroit le même soir. Et ensuite, ils sont allés à la soirée du vendredi avec Mike Pickering, qui avait un set de pure musique électronique. Et ces gars voulaient leur truc à eux. Ils sont devenus DJ, producteurs. Et 8 ans après leur premier pas à l'Hacienda, ils étaient en tête d'affiche du festival de Glastonbury. Et si l'on remonte la trace de leur inspiration et de leur influence, on arrive à la porte d'entrée de l'Hacienda. Et bien sûr, il est arrivé la même chose à Laurent Garnier. Dieu le bénisse, c'est l'une des personnes que j'aime le plus au monde. Il écrit dans son autobiographie qu'il entre à l'Hacienda, le DJ joue Love Can't Turn Around de Farley Jack Master Funk et sa vie en sera bouleversée. D'ailleurs, j'ai conservé mes agendas et j'ai la liste des DJ pour le 6e anniversaire de l'Hacienda. En mai 1988. Et ce soir-là, c'est Mike Pickering et moi-même aux manettes toute la nuit.
9 p.m. till 10 p.m.
Et le DJ en warm-up, 21h à 22h, Laurent.
You know, that was one of his first gigs at the Hacienda.
C'était l'un de ses premiers sets à l'Hacienda. Donc il est venu au club, il a écouté la musique, apprécié l'ambiance, il a vu la révolution en cours et ça l'a inspiré pour devenir DJ. Et pour moi, il est évident qu'à partir de ce jour, il n'allait plus jamais quitter la musique.
À Berlin, le Trésor a déménagé après 2 ans de fermeture et une longue bataille avec la police. En cause, là aussi, des histoires de drogue. Le Trésor est désormais installé dans une ancienne centrale thermique du quartier de Mitte. Un long couloir mène à la piste. L'éclairage, stroboscope et spot rouge est minimal. Le son, pur techno, est à fond. Les basses font trembler le bâtiment. On a l'impression d'être dans un vieux vaisseau sur le point de décoller. Le sol est en béton brut, aucune décoration à part les graffitis, pas de fauteuil, pas de canapé, comme si le site venait tout juste d'être investi. Et la fête techno se poursuit. Quant à l'Hacienda, le club a définitivement fermé ses portes en 97. 10 ans plus tard, Tony Wilson a succombé à un cancer. Le tournage du film 24 Hour Party People a offert au nostalgique Keith Patterson la fête d'adieu dont il avait été privé.
You know, as a piece of entertainment, it's a great, great film. And the fact that they actually rebuilt the hacienda, you know.
C'est un film divertissant. Et le fait qu'ils aient reconstruit l'hacienda à l'identique dans un hangar ici, qu'ils aient de nouveau organisé une soirée club, c'était extraordinaire.
The club night together, which was a magical experience.
Car on nous avait confisqué notre club. Et voilà qu'on nous le rendait, juste pour une nuit, c'était dingue. C'était la soirée d'au revoir. C'est triste, mais le club a fermé du jour au lendemain. Ce n'était pas annoncé. Et c'est bien triste.
Je ne suis jamais allé à la Hacienda. Mais je sais qui est Tony Wilson et ce qui s'est passé là-bas.
Dimitri Hegeman, cofondateur du Trésor.
Ce n'était pas la même époque, mais ce qu'il a fait était très important. Il a créé ce lieu où il s'est passé plein de choses. Tous ces groupes de Manchester y ont vu le jour, les Happy Mondays et d'autres. L'Hacienda a fait quelque chose de très important car il a donné de l'espoir à Manchester. Et quand vous créez cet espace et que vous avez un programme artistique bien pensé, les bonnes personnes vont se rencontrer et elles développent de nouvelles idées, de nouvelles solutions créatives, de nouvelles directions. Et ça, c'est important. Et je veux travailler là-dessus, trouver les bonnes personnes dans toutes les différentes communautés, les jeunes, les hommes, les femmes. Ils veulent faire des choses, il faut les trouver. Ils veulent parfois un feu vert, un go. Et ils sont prêts, ils vont passer à l'action. C'est ça mon défi. Je parle aux villes pour qu'elles donnent des espaces aux jeunes et pour leur faire comprendre que ce qui est très important pour toutes les communautés, c'est le night clubbing. Il faut mélanger le dadaïsme et la musique pour tous ces jeunes qui ont tellement d'idées qu'ils n'arrivent plus à trouver le sommeil.
Trésor et Hacienda, deux temples au cœur de la révolution techno, un documentaire de Nicolas Champeau, réalisé par Gaël Gillon. Avec Marc Rieder, Dimitri Hegeman, Mathias Stiller, Keith Patterson, Ange Matthews, Dave Aslam et Alex Patterson. Prise de son, Benjamin Thuo, Virginie Lorda, Bastien Varigo et Dimitri Paz. Mixage, Benjamin Thuo. Archive INA, Emmanuel Lucioni. Documentation, Anne-Lise Signoret. Doublage, Lise Combe, Maïra Chouaki, Régis Royer, Laurent Lederer et Clara Chavalier. Chargée de programme, Marivonne Bolivier et Anaïs Morales. Coordination, Perrine Kervran et Johanna Bedeau. À suivre dans la série Techno Music Non-Stop, l'épisode 4, la technothérapie de Miss Kittin de Rêve en Rêve.